et à regarder avec moi pour continuer la série sur la prière. On a déjà regardé plusieurs passages concernant la prière et le jeûne. On a regardé aussi l'importance de la prière, l'efficacité de la prière, la puissance de la prière. Et ce matin, le titre proposé est le suivant, les conditions de la prière exaucée. Et vraisemblablement, on regardera ensemble un autre message avec les obstacles de la prière. Mais là, on va être positif ce matin et on va regarder les conditions de la prière exaucée pour nous exhorter à prier dans le regard et la pensée de Dieu. Pour cela, je vous invite à tourner en 1 Jean. Prenez donc le livre de Jean, l'épître de Jean exactement. L'épître de Jean au chapitre 3, 1 Jean chapitre 3. Et au verset 18, où il est écrit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Prions, s'il vous plaît. Notre Père, enseigne-nous à prier. C'est ce que les disciples ont demandé à notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ. Nous voulons être à tes pieds, à l'école de la prière, afin de voir nos prières exaucées, de te voir glorifié, d'avoir toujours goût et envie de prier, de respirer cette vie chrétienne par la force de Dieu et ainsi d'intercéder, d'adorer, de louer, de rendre grâce à notre Dieu. Père éternel, merci de cacher ton serviteur derrière la croix afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier et n'avoir pas l'exaucement ou le résultat que vous aviez pourtant espéré? Il faut dire que si on examine notre conscience et si on veut être honnête devant Dieu, ça nous laisse interrogatif, pourquoi est-ce que Dieu n'exauce-t-il pas toujours nos prières? Alors nous allons regarder ce matin quatre points principaux dans les Écritures qui nous montrent quelles sont les conditions pour que nos prières soient exaucées. En fait, si nous nous investissons dans la prière, est-ce que nous ne voulons pas que nos prières soient exaucées? À quoi bon prier si notre prière n'est pas exaucée? Ce serait des vaines redites, ce serait tomber dans une habitude religieuse, sans puissance, sans force, qui n'aboutirait absolument à rien. Ici, dans le passage que nous avons lu, il y a un verset qui est bouleversant concernant notre attitude dans la prière. Il est écrit, et c'est Jean qui parle, l'apôtre Jean, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. » Alors, ou bien nous ne sommes pas arrivés à cette expérience, ou bien c'est « Oh, cette expérience est réservée uniquement à Jean. » Écoutez, c'est l'apôtre de Jean. C'est l'apôtre Jean, c'est l'apôtre de Jésus, c'est l'apôtre bien-aimé de Jésus, c'est l'apôtre qui s'est blotti sur le sein de Jésus. Voilà, c'est Jean qui a une communion extraordinaire avec Jésus et c'est réservé à Jean ou peut-être à quelques élus, donc on n'est pas peut-être toute la liste. Mais ce n'est pas du tout ce qui est écrit ici, parce que cet épître s'adresse à tous les enfants de Dieu et même la prière exaucée est un signe qui a une vraie communion avec Dieu, un signe authentique qu'on est un enfant de Dieu. quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Ça semble absolu. Ça semble tellement catégorique que on s'humilie devant ce verset. Enfin, je ne sais pas vous comment vous allez réagir ce matin, mais on a envie de s'humilier et dire, Seigneur, est-ce possible que dans la prière, j'ai l'assurance que tu es en train d'exaucer? En même temps que je prie, tu me donnes cette assurance que oui, tu écoutes la prière et tu exauces ma prière. Quelle assurance! Et pourtant, il faut confesser que nous ne prions pas toujours avec une telle assurance. Pourquoi? Parce que nous oublions les versets suivants. Qu'est-ce qui est écrit ici? Nous recevons de lui, quoi que ce soit que nous demandions, parce que nous gardons ses commandements. Ah, mais il y a une condition ici. Que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc il y a ici une condition qui est notre obéissance. L'obéissance aux commandements. Les garder, c'est certainement les connaître, les comprendre, et puis les chérir pour les mettre en pratique. Jacques nous avertit que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions, après avoir entendu la parole, la mettre en pratique, afin de vraiment prouver que nous assimilons la parole de Dieu, que nous la pratiquons dans le sens que nous nous y soumettons. Charles Studd, un missionnaire dont je parle quelquefois, avait l'habitude de souligner dans le Nouveau Testament toutes les promesses de Dieu concernant la prière. Et quand il priait, il s'accrochait à ces versets en réclamant la bénédiction de Dieu parce que Dieu nous a fait des promesses. Et nous pouvons ainsi, frères et sœurs bien-aimés, nous confier dans notre Dieu, avoir foi en lui, qu'il écoute la prière et même recevoir l'assurance qu'il exauce. Je pense à un frère dont j'ai oublié le nom, dont j'ai lu une espèce de, pas biographie, mais en tout cas récit de témoignage, un frère pasteur grec, qui avait le don de guérison, mais dans un sens bien compris, selon les Écritures, et qui allait à l'hôpital, qui allait visiter des personnes, et qui avait reçu de Dieu ce don de discernement pour prier pour les frères et sœurs malades. Et Dieu lui a donné la grâce dans la prière, parce qu'il faut toujours prier pour les malades. Mais il a reçu l'assurance dans la prière pour telle ou telle personne que Dieu allait vraiment le guérir, et Dieu le faisait. Et chaque fois qu'il a prié dans l'assurance, parce que communiqué par Dieu lui-même, que Dieu allait guérir la personne, cela s'est passé. Alors, Dieu ne guérit pas tout le monde, mais pourtant, dans la prière, il peut donner l'assurance de l'exaucement. Ça, c'est extraordinaire. Écoutez, si chaque fois que nous prions, chaque fois que nous nous mettons à genoux, et que nous avions l'assurance que Dieu exauce, nous serions comme l'apôtre Jean. Nos genoux deviendraient durs comme des cailloux. C'est ce qu'on disait à la fin de sa vie, que Jean avait des genoux durs comme des cailloux à force d'être à genoux. Quand l'Église est à genoux, quand le croyant est à genoux, Dieu se manifeste avec puissance, se révèle et se glorifie. L'Église est faible et reconnaissant que parfois, bien souvent, nos vies chrétiennes sont faibles parce que au lieu de marcher, au lieu de prendre le temps de marcher selon le Seigneur, nous oublions d'abord d'être à genoux. Il faut d'abord être à genoux avant de marcher. Il faut réaliser que nous sommes assis dans les lieux célestes, comme dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, pour pouvoir marcher. Mais c'est souvent en étant à genoux qu'on réalise qu'on est assis dans les lieux célestes, que notre position est en Christ. Alors vous l'avez compris ici, la condition de l'exaucement, c'est notre obéissance. J'aimerais vous donner une illustration qui semble tellement commune à tous les parents. Quel est le père ou la mère qui a envie de donner des cadeaux ou de récompenser un enfant qui est désobéissant, voire rebelle? Un enfant qui mettrait tout le désordre comme ce n'est pas possible dans sa chambre, qui mettrait la saleté partout, qui n'obéit jamais, qui range jamais ses affaires. Ce n'est pas vous, j'espère, ici ce matin. Hein? et qui ensuite, après avoir entendu l'ordre de son papa et sa maman, viendrait demander quelque chose à son papa et sa maman. Et vous savez, c'est les parents, nous aimons nos enfants de façon inconditionnelle, c'est vrai, mais quelque part, l'exaucement, la récompense vient lorsqu'il y a obéissance, c'est du bon sens. Mais avec Dieu, est-ce que ce n'est pas pareil? Parce que Dieu est devenu notre Père. J'aimerais vous dire aussi ceci, dans le contexte de ce passage qu'on a lu, il est dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Il est écrit qu'on garde ses commandements. Et plus tard, il est écrit, c'est ici son commandement, que nous croyons. La condition d'une prière exaucée, c'est de croire de tout notre cœur en Jésus-Christ. C'est simple ce que je vais vous dire ce matin. C'est peut-être même un rappel pour la plupart d'entre nous. Mais est-ce que nous le vivons? C'est la foi qui plaît à Dieu. Et deuxièmement, il est écrit que nous nous aimions les uns les autres. Savez-vous qu'un des obstacles à la prière, c'est parfois le manque d'amour? Si nous prenons le temps d'aimer Dieu, nous allons aimer notre prochain. Et lorsque nous sommes motivés notamment pour prier pour les autres, parce que rempli de l'amour de Christ pour eux, Dieu prend plaisir à cela. Une des conditions de la prière exaucée, c'est donc la foi en Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres. Et à cela, on peut dire quoi? Amen. Vous n'avez pas envie de croire en Jésus? Vous n'avez pas envie d'aimer votre prochain? D'aimer votre frère? D'aimer votre sœur? Est-ce que vous vous aimez ce matin? Écoutez, souriez-moi un petit peu. Ah, ça va mieux. Merci. Souriez devant Jésus. Et puis, à la fin du culte, allez voir un frère, une sœur, entourez un visiteur, entourez quelqu'un. On n'est pas une grande église. Mais Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, de pratiquer la charité. Ça y est, ça va mieux. Vous êtes un peu plus souriant. Gloire à Dieu. Ça nous exhorte à prier par la foi, à nous aimer les uns les autres, et à croire que Dieu prend plaisir à nous exaucer. C'est merveilleux quand un enfant est exaucé de la part de son père, de sa mère, puis qui vient devant son père ou sa mère avec un cœur tellement reconnaissant. Je me souviens de mes enfants, oh, je peux vous dire son prénom, c'est celui qui vient de se marier, donc il n'y en a pas 36 chez nous. Il est venu un jour dans la chambre et dit « Papa, je veux prier avec toi ». On s'est mis à genoux au pied de notre lit, c'est un des endroits, notre chambre haute à la maison, pour prier. Et il s'est mis à prier. Il a loué le Seigneur pour son papa et sa maman. Et vous ne pouvez pas savoir le baume que ça a fait sur mon cœur. D'avoir un fils qui est reconnaissant envers Dieu pour le père et la mère que Dieu lui a donné. L'esprit de reconnaissance, d'ailleurs, est un esprit de Dieu. Est-ce qu'on est reconnaissant envers ce que Dieu a fait? On est exaucé, puis on oublie de le remercier. C'est incroyable, c'est comme les lépreux qui se sont approchés, et il n'y en a qu'un qui est allé dire merci. Mais nous sommes incroyablement mais reconnaissants. Nous prions, puis nous oublions de remercier le Seigneur qui l'a exaucé. Et nous pouvons pourtant demeurer dans la louange et le glorifier, parce qu'il exauce notre prière. Vous avez été exaucé cette semaine? Ah, j'espère, frères et sœurs. J'espère que vous avez vu la main de Dieu sur vous et que votre Père Céleste vous a béni. Alors, c'est aussi qui lui être agréable, que nous faisons ce qui lui est agréable. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Eh bien, que notre vie soit dans sa volonté. Je l'ai déjà dit, je pense, dimanche dernier, mais une des caractéristiques de Jésus, c'était sa dépendance avec Dieu le Père. Il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » De lui être agréable, que nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce que nous prenons le temps de nous examiner pour savoir si ce que nous faisons lui est agréable? On peut faire des choses pour être agréable aux hommes, pour être agréable à bien des gens, mais ce qui compte avant tout, c'est de lui être agréable. Et c'est vrai que, regardez quand Joseph a été tenté. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas tombé dans le péché, la fornication, alors qu'une femme le tentait? Il dit, je ne peux pas pécher contre mon employeur. Mais contre mon Dieu, ce qui l'a gardé, Joseph, c'est de vouloir être agréable à Dieu. Son Dieu était tellement fort dans son cœur que Dieu lui-même et son attachement à Dieu l'a préservé de tomber dans le péché parce qu'il préférait Dieu au péché. Nos prières sont exaucées parce que nous lui sommes agréables, parce que nous nous éloignons du péché. Nous devons comprendre cela. Et je vous lis un verset en Jean chapitre 8 et verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voyez-vous, on peut chercher à plaire aux hommes, mais il y a un danger. Mais plaire à Dieu et lui être agréable, c'est ce qui réjouit le cœur du Seigneur. Et alors, il y aurait toute une liste de versets à regarder sur ce qu'est une vie agréable devant Dieu, mais je vous en lis au moins un ou deux. Il est écrit en Romains 12, après le premier verset, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu nous demande de renouveler l'intelligence pour faire sa volonté, ce qui lui est agréable. Comment se fait-il que parfois les croyants, les enfants de Dieu, ne sont pas agréables à Dieu? C'est parce qu'ils ne veulent pas chercher la volonté de Dieu. Reconnaissant que parfois, mais la volonté de Dieu a un prix à payer, et pour être agréable à Dieu, c'est suivre ses commandements. C'est comme le psalmiste dans le psaume 119 qui dit « Je sers ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Le psalmiste a compris l'attachement à la parole qui est le reflet de l'attachement à son Dieu. Et cette parole, il la chérit, il s'en nourrit, et il l'étudie, il la médite, et il l'enseigne, parce qu'elle est chère à son cœur. Donc prier et être exaucé, c'est croire en Jésus, c'est s'aimer les uns les autres, c'est prier avec assurance, parce qu'on a l'amour de Dieu dans son cœur, et qu'on sait qu'on lui est agréable. Si vous avez un être cher, pensez à l'être le plus cher que vous avez sur la terre. Ça y est, c'est venu à votre esprit, j'en suis sûr. Et maintenant, réfléchissez un instant, un moment où peut-être vous avez été désagréable envers cette personne. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé voir la personne et humblement pour rétablir la communion parce que votre parole, votre action, votre péché ou même votre omission a blessé la personne. Et parce que vous la chérissez, parce qu'elle est chère donc à votre cœur, vous voulez garder cette intimité et vous allez rétablir cela, vous allez demander pardon. Et vous allez chercher à rétablir, d'être agréable envers la personne. C'est exactement ce que nous devons faire envers Dieu. Est-ce que nous avons autant de sensibilité envers Dieu pour lui être agréable que ce que nous avons envers l'être le plus cher que Dieu a peut-être placé sur notre cœur ou à côté de nous. Réfléchissons là-dessus. La deuxième condition de la prière exaucée se trouve dans le psaume 145. Si vous voulez bien regarder, le psaume 145. Le psaume 145 et le verset 18. Certainement qu'il est déjà souligné éventuellement dans votre Bible. La Bible dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Ici, Dieu est en train de dire « L'Éternel, Yahweh, celui qui est, celui qui connaît le passé, le présent et l'avenir, celui qui est éternel, qui est au-dessus du temps, c'est notre Dieu. » Il est auprès de tous ceux qui l'invoquent. Dieu est tellement occupé, mais malgré tout, il est auprès de tous ceux qui l'invoquent. C'est une chose qui est remarquable. On pense, enfin moi je me souviens, j'ai essayé d'amener quelqu'un de ma famille au Seigneur et lui dire, mais Dieu, on peut avoir une relation avec lui. Mais j'ai compris dans sa religion et sa façon de voir Dieu, pourtant sincère, hein, dans une certaine mesure. Pour lui, il voit Dieu tellement loin. Ils pensent jamais que Dieu s'occupe de chaque créature qu'il a créée. Il a oublié le verset qui dit que Dieu connaît jusqu'au nombre de nos cheveux à chacun. Je ne sais pas comment il fait pour les calculer. Je ne sais pas quel système électronique, enfin, relatif, il a. Mais vous vous rendez compte, les milliards d'êtres humains, il les connaît jusqu'au nombre de leurs cheveux. Je ne sais pas qui tient les comptes là-haut au ciel. Ça ne vous fait pas sourire ce matin, ça? Ça veut dire qu'il nous connaît. Il nous connaît. Avant qu'on se lève, il sait ce qui va être dans nos cœurs, nos pensées. Même avant qu'on parle, il sait exactement ce qu'on va dire. Alors parfois, il faut se taire pour l'écouter à lui. Mais c'est incroyable. Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent. Waouh! Combien de fois nous faisons appel à Dieu et puis il vient auprès de nous et il nous secourt dans notre détresse. Il nous délivre de la puissance de Satan. Il nous garde du péché. Il nous préserve de ce monde. Parce que nous nous adressons à lui, il est dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est auprès de ceux qui l'invoquent. De tout ce qu'il invoque, ah, il y a une condition là, c'est laquelle? Avec sincérité. Vous allez me dire, mais ne croyez-vous pas que chaque fois qu'un croyant prie, il prie sincèrement? Il prie de tout son cœur? Eh bien non. Parce que dans la prière peut devenir monotone, la prière peut vous dire des mots que l'on répète. Ah, ça peut être des mots qui semblent des mots saints et sanctifiés. Mais s'il n'y a pas la sincérité du cœur, c'est de l'hypocrisie quelque part. Dieu veut tout notre cœur. Dans un proverbe, il est écrit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et cela s'applique aussi dans les moments de prière. Alors, j'ai fait une petite recherche sur le mot sincérité. Il y a l'idée ici que c'est loyauté comme synonyme, franchise, authenticité. Ça veut dire aussi de prier selon la vérité, avec vérité, on pourrait traduire. Ça, l'idée de la foi, de la droiture, de l'assurance, de l'honnêteté, véracité. Et si on regarde appliqué dans le sens grec, ça veut dire sans cire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Sans la cire. Pourquoi? C'est parce que à l'époque, des statues gréco-romaines, lorsque les sculpteurs sculptaient, il arrivait qu'il y avait des défauts. Alors pour les cacher, les défauts, parce que le burin du sculpteur avait laissé un emplacement qui n'était pas le reflet de ce que le sculpteur voulait faire, alors on mettait de la cire pour cacher. J'aimais bien cette idée-là, parce que ça se retrouve dans nos vies. Est-ce que lorsque nous prions, nous avons un peu de cire, parce que nous cachons un petit peu ce qui serait peut-être pas aussi beau que ce qu'on voudrait devant Dieu? Eh bien, la prière sincère, c'est celle qui se dépouille. Vous n'avez pas envie de prier? Ben dites-le au Seigneur. À quoi bon commencer à réciter des chapelets? Excusez, en tant qu'évangélique, on n'a pas de chapelet. Mais gardons-nous de faire des prières pour faire des prières. Allons vers Dieu, dit Seigneur. Mon cœur est sec. Ça ne va pas bien. Je n'ai même pas envie de prier. Aide-moi à prier. Vous savez, ça c'est sincère. Ça, c'est honnête. Reconnaissons notre faiblesse, parce que bien souvent, nous ne savons même pas, nous dit la Bible, ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous n'avons pas l'intelligence spirituelle, nous n'avons pas le discernement, et même parfois, nous pouvons être fatigués, après des combats spirituels, de savoir comment prier. Mais Dieu nous demande de nous rapprocher de lui avec un cœur sincère. Et je remercie le Seigneur, parce que, vraiment, ça y est, je fais la publicité encore. Le vendredi soir, nous avons de tels moments. Nous avons passé, dans les derniers vendredis soirs, des réunions de prière, où nous avons vraiment vu la sincérité du cœur. Et merci Seigneur, parce que nos réunions, par la grâce de Dieu, portent du fruit. Et je le dis avec sincérité. Parce que nous sommes là, et nous qui venons, nous sommes sincères à prier devant Dieu, reconnaissant nos faiblesses, nos incapacités, confessant nos péchés. Mais nous sommes là parce que Dieu nous demande de prier et nous nous tenons devant Dieu. Et je pense à ce verset en Hébreux chapitre 10, verset 22, je vous le lis. Bon, verset 21, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Savez-vous que Dieu vous regarde tous les jours ? Que Jésus-Christ vous aime une fois que vous l'avez accepté ? La Bible dit que nul ne pourra nous ravir de sa main, que tous les jours il est là. Il est celui qui veille sur votre cœur. Il est celui qui veille sur l'Église, le souverain sacrificateur, celui qui a expié nos péchés une fois pour toutes, Jésus-Christ. Il est écrit, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, avec un cœur sincère. » Donc là, ici, c'est synonyme de foi, d'un cœur purifié et puis d'un être lavé. Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu ? C'est que nous soyons purifiés. Nous n'avons pas besoin d'attendre d'être parfaits pour nous approcher de Dieu. Dans notre imperfection, nous nous approchons de Dieu pour être purifiés, parce que nous sommes sincères devant lui, et il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et parce que purifiés, notre conscience alors retrouve sa pureté, et nous nous approchons de Dieu avec sincérité. Alors, il y a la prière sincère dans la Bible, il y a la foi sincère, il y a l'amour sincère. Il y a d'autres versets que j'aurais pu vous lire ce matin, mais qu'on va passer. L'idée ici, c'est que Dieu veut que nous invoquions notre Seigneur de façon sincère. Troisième condition, ça se trouve en Jean 14, versets 13 et 14. Jean 14, versets 13 et 14. Jean 14, versets 13 et 14. Et là aussi, c'est surprenant comme déclaration du Seigneur. Il est écrit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je... » Voilà. Est-ce que Dieu a exaucé vos prières cette semaine ? Il dit, je le ferai. Maintenant, il n'est pas dit, quand est-ce que Dieu le fait ? Il faut le dire, parce que ça ne veut pas dire que la prière n'est pas exaucée. Mais l'idée, c'est que l'assurance dans l'exaucement vient parce que nous prions selon Dieu. Mais Dieu va le faire. On ne sait pas quand il va le faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas attendre qu'il le fasse et devenir passif. Parce que la prière qui est exaucée est une prière aussi persévérante. Mais ici, c'est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. La première chose que j'aimerais souligner, c'est que c'est possible parce que Jésus-Christ, en Hébreux chapitre 10 et verset 19, a ouvert la route pour que nous puissions entrer dans les tabernacles éternels et nous présenter devant Dieu à cause du fait qu'il lui a présenté son sang. Et au verset 19, il est écrit, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. En mon nom, ça veut dire tout ce qu'il représente. Ce n'est pas simplement de dire systématiquement à toute fin de prière, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas mauvais de le dire, mais ça veut dire beaucoup plus que ça. Ça veut dire que nous nous présentons devant Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, qui lui a présenté son sang dans les cieux éternels, afin de nous donner une entrée libre. Mais c'est incroyable le privilège que nous avons. Nous, les enfants de Dieu, nous avons le privilège de nous rapprocher de Dieu et d'être entendus de Dieu. Vous avez déjà été reçu par Sarkozy ? Enfin, j'ai jamais demandé, moi. Ou par le roi d'Angleterre, ou par la reine d'Angleterre, ou par un président bien en vue, enfin, vous comprenez l'illustration, sans parler de nom particulier, on se comprend. C'est pas facile de rapprocher certaines personnes. Essayez de rapprocher une vedette de cinéma, une vedette de la chanson, quoique bon, ils reçoivent des milliers de lettres, ils les mettent à la poubelle, mais essayez de rapprocher quelqu'un d'être intime avec une vedette. Hein ? C'est réservé, il y a des élus dans ce monde, de la politique, de la finance, du show business, du cinéma, de la chanson. Ah, ils sont dans les journaux, accessibles à tous, en image. Mais allez frapper à leur porte, on verra bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et nous, nous avons Dieu qui est accessible. Nous frappons ? Papa, c'est moi. Je viens au nom de ton fils, il est mort à la croix pour moi. Papa, tu m'aimes ? tu es toujours là, oui, alors je viens, je me présente à cause de Jésus-Christ qui est mort à la croix, à cause de son sacrifice qui a expié mes péchés. Dieu le Père t'a donné ton Fils afin de m'aimer à tel point que ton Fils est mort pour que moi j'aie la vie. Je viens au nom de ton Fils Jésus-Christ. Oh, je ne viens pas à mon nom. Je ne suis pas beau, je ne suis pas intelligent, je suis sale à cause de mon péché. Mais Père, tu m'as purifié par le sang de Jésus. Et je viens à cause de Jésus-Christ. Et comme Dieu le Père aime le Fils, il dit, mais oui, tu es mon enfant. Je t'ouvre la porte. Tu as frappé, je suis accessible. Qu'est-ce que tu veux, mon enfant? Eh bien, papa, voilà, telle situation, tel besoin. Je me présente devant toi, au nom de Jésus-Christ. Et Dieu a tellement plaisir à voir quelqu'un qui aime son Fils. Il a tellement plaisir de voir ses enfants en Christ, qui aiment son Fils, que lui-même chérit. Et quand on vient au nom de Christ, devant le Père, et que les cieux s'ouvrent, le Père est glorifié. Le Père est glorifié parce qu'on honore son Fils, on honore son œuvre. Et on est transporté dans les cieux. Quelqu'un a dit cette illustration à propos de se présenter au nom de Jésus-Christ. Imaginez que vous allez chez un banquier et vous avez un chèque. Et vous savez, si vous avez un chèque de... Ah, vous avez reçu un gros chèque d'un ami un jour? Ça vous est déjà arrivé? Ah, pas encore, mais ça viendra un jour. Ou un chèque, peu importe. Et vous allez à la banque. Ouais, mais comment allez-vous toucher le chèque? Si la personne n'a pas d'argent sur son compte, le chèque va être barré. Vous ne toucherez pas l'argent. Vous n'allez pas pouvoir toucher l'argent pourtant qu'on vous a donné au travers d'un chèque. Il y a même la signature. Mais s'il n'y a pas la provision... C'est bloqué, et c'est normal. C'est quelqu'un qui veut vous donner l'argent qu'il n'a pas. Et aujourd'hui, il y a des banquiers qui ne peuvent plus prêter à ceux qui veulent emprunter pour construire. Ils n'ont plus de liquidité. La crise de la finance est là. Vous allez au ciel, frapper, vous présenter avec le chèque qu'a signé Jésus-Christ. La provision est illimitée. C'est ça la différence. Les banques aujourd'hui sont limitées. Vous avez besoin de quelque chose. Allez voir votre Père Céleste. Sa provision céleste, sa banque est au ciel et sa provision est illimitée. Si vous avez besoin de quelque chose, sachez qu'il faut aller vers Dieu parce que lui a un crédit pour ses enfants illimité. C'est merveilleux cela. Amen. Ça y est, je me suis perdu dans mes notes. Alors, son nom, ça ne signifie pas simplement dire à la fin de la prière en son nom, mais reconnaissons que c'est en sa présence, dans sa volonté, soumis à Dieu, aux Écritures, et certainement une prière inspirée par le Saint-Esprit qui nous conduit à glorifier Jésus-Christ devant Dieu le Père, et ainsi le Père, le Fils et le Saint-Esprit en sont honorés. Et la Bible dit, Jésus a dit, je le ferai. Vous priez pour quelque chose depuis longtemps et vous êtes convaincu que cette prière vient de Dieu, eh bien, ayez l'assurance que Jésus va le faire. Il va le faire. Mais présentons-nous devant Dieu le Père en son nom. Quatrième point et le dernier, c'est prier selon sa volonté. 1 Jean chapitre 5, retournez si vous voulez bien. En 1 Jean chapitre 5, ce point va comme enfoncer le clou de cette réflexion de la prière exaucée, les conditions, prier avec assurance, prier, on a vu ensemble, avec sincérité, prier au nom de Christ, et maintenant c'est prier selon sa volonté. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, qu'est-ce qui est écrit? Il nous écoute. Si vous allez voir votre patron pour avoir une augmentation, si c'est sa volonté, il va vous écouter. Si ce n'est pas sa volonté, hein? Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. C'est, vous vous rendez compte, cette assurance? Moi, je tremble devant Dieu quand je lis ça. Parce que est-ce qu'on peut prier sans prier avec assurance? Si Dieu dit qu'il va nous écouter et que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée, maintenant, attendez, c'est peut-être pas de demander une Porsche pour la fin d'année, ou un yacht à Cannes, ou je ne sais pas, enfin, imaginez ce que vous voulez, ça m'est égal. Mais l'idée ici, c'est que peut-être Dieu a d'autres sujets de prière que la satisfaction de notre chair. Ici, il est écrit que nous avons cette assurance, que si nous demandons quelque chose, et quelle est la condition ici ? Je vous ai perdu. Quelle est sa condition ici? Selon sa volonté. Me dire, oh, moi, je cherche tous les jours la volonté de Dieu. C'est pas mal comme désir. Mais peut-être vous devriez savoir que déjà Dieu a manifesté sa volonté largement. Il l'a manifesté tout d'abord dans les Écritures. Dieu révèle sa volonté au travers de sa parole. Et nous devons nous appuyer quand nous prions sur les choses, sur les promesses de Dieu, sur des choses précises. Je dis un exemple. J'aime bien entendre des gens qui ont à cœur la mission. Et j'ai entendu parfois cette prière, et certainement moi-même je l'ai dite, croyant être sincère et vrai devant Dieu, dit « Seigneur, bénis la mission ». C'est un peu vague, ça, vous ne trouvez pas ? Mais par contre, si nous prenons un verset de la parole de Dieu et nous réclamons à Dieu sa bénédiction à cause de la promesse qu'il a faite pour tel ou tel missionnaire ou besoin de mission, sa provision, sa protection, etc., Dieu va exaucer avec plus d'efficacité. Parce que Dieu exauce avec efficacité, mais si nous ne demandons pas des choses précises, basées sur sa parole, j'ai l'impression qu'on est encore enfantin dans nos prières. Prier, c'est oser demander. C'est déranger Dieu. C'est prier avec agonie et ne pas cesser de prier toujours jusqu'à ce que Dieu exauce parce que nous savons en lui demandant que nous sommes dans sa volonté. Cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est son désir. Après, ce qui se passe, ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Mais je sais une chose. C'est que chaque fois que l'on prie pour le salut d'une âme, c'est certainement dans le désir et le cœur de Dieu. Et nous ne devons pas cesser de prier ainsi pour le salut des âmes, parce que c'est biblique. Le sage s'empare des âmes. Et Dieu a appelé Paul afin, parce que passer des ténèbres à la lumière, afin d'arracher les âmes de l'enfer, pour qu'il passe de la puissance de Satan à celle de Dieu. Et lorsque nous prions, oui, nous sommes dans sa volonté pour le salut des âmes. Alors, je dis cette remarque, c'est que Dieu veut sauver tous les hommes, mais ce n'est pas tous les hommes qui l'acceptent. Mais certainement, Dieu veut communiquer un fardeau réel dans nos cœurs pour demander des choses précises. Une chose que Dieu nous demande, je l'ai déjà dit, je crois, dans d'autres occasions, mais moi je suis surpris. J'ai mis du temps, hein. Je ne sais pas vous, si vous mettez du temps des fois à comprendre des passages, à les appliquer dans votre vie, en tout cas moi c'est mon cas, mais longtemps j'ai lu l'épître de Jacques et je me suis réjoui, j'aime beaucoup l'épître de Jacques, enfin j'aime toutes les écritures, mais il y a des choses très pratiques qui font réfléchir, c'est très pratique, puis quelque part ça nous pousse à vraiment nous sonder, à voir si on est vraiment dans le Seigneur, si on est humble, si on marche avec lui, si on se garde la tentation, préserve du mal. Si Dieu est vraiment la priorité dans notre vie, si on a vraiment la foi et les œuvres, etc. Mais Jacques commence en disant ceci, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et qu'il donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Alors moi, je vous confesse que dans la plupart des domaines de ma vie, même tous, j'ai besoin de sagesse. Parce que je n'ai pas de sagesse en moi-même. J'ai un grand besoin de sagesse, la sagesse de Dieu, dans tous les domaines de ma vie. Et quand j'oublie de prier Dieu, demander sa sagesse, pour que sa volonté s'accomplisse dans tel ou tel domaine. Après, je me dis, waouh, tu as peut-être oublié de prier comme il fallait et de réclamer la sagesse pour agir avec sagesse. Mais la question ici, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est un peu ironique, vous ne trouvez pas? Parce que quel est d'entre nous celui qui ne manque pas de sagesse? Il est écrit qu'il la demande avec foi, condition, sans douter. Voyez-vous ici, Dieu promet quelque chose, mais il y a une condition, c'est la foi. Il ne faut pas douter que Dieu veut nous donner ce que nous demandons, la sagesse, mais d'avoir foi. Et bien sûr, s'il nous révèle sa volonté, de nous y soumettre. Parce que demander la sagesse de Dieu pour discerner sa volonté dans tel ou tel domaine et ensuite ne pas le faire, ben c'est tenter Dieu. Nous devons apprendre à nous soumettre à Dieu. Et puis il est écrit enfin que nous devons être remplis du Saint-Esprit. La Bible dit « Soyez au contraire remplis de l'Esprit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Soyez remplis du Saint-Esprit. Alors là, on peut boire autant qu'on veut hein, avec le Saint-Esprit. On peut se laisser remplir. Et puis, nous devons demander au Seigneur son onction. Et je pense à Luc chapitre 11, lorsqu'il dit qu'il donnera l'Esprit à tous ceux qui lui demandent. Alors bien sûr, ce verset s'applique à celui qui n'est pas sauvé, parce que Dieu veut donner le Saint-Esprit à celui qui n'est pas sauvé pour le régénérer. Mais je crois que dans le contexte aussi, c'était le croyant qui a besoin de recevoir de Dieu quelque chose qu'il n'a pas pour combler le besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'on est poussé à prier pour justement demander à Dieu qu'il exauce nos prières pour combler les besoins des autres. Et la Bible dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu, donc selon sa volonté, qu'il intercède en faveur des saints. Priez selon sa volonté, parce que soumis à ses commandements, certainement, selon les Écritures, et parce que rempli du Saint-Esprit. Et alors, nous aurons cette assurance de la prière exaucée. Il y a quatre conditions, frères et sœurs, de la prière exaucée. C'est prier avec assurance, prier avec sincérité, prier en son nom, prier selon sa volonté. Si nous avons de telles prières, nous aurons la joie d'être exaucés et ainsi de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Prions s'il vous plaît. Notre Père, ce sont des choses simples que nous avons vues ce matin. Mais tu prends plaisir à nous écouter, à vouloir nous exaucer, nous qui sommes des créatures si faibles. Mais par ta grâce, par ton esprit, basé sur ta parole, nous pouvons prier et être exaucés. Donne-nous cette grâce de garder tes commandements, de croire en Christ, de nous aimer les uns les autres. Donne-nous la grâce d'être sincères, sans hypocrisie dans nos vies pour prier. Donne-nous la grâce d'être en communion avec le Fils pour nous présenter devant Dieu le Père en son nom. Fais-nous la grâce de prier selon la volonté de Dieu. Toutefois, non pas la nôtre, mais la tienne. Amen.